te disons sincèrement merci pour la grâce que tu nous accordes d'être comptés parmi ceux-là qui ont ces privilèges. Prions que tu bénisses ces instants, que tu prennes en charge chacun et chacune d'entre nous, que tu nous accordes de sentir ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 4. Nous allons commencer la lecture au verset 5 et nous irons jusqu'au verset 26. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph. Là même où se trouve le puits de Jacob, fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment toi, un Juif qui me demande à boire, à moi, une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et t'aurais donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as pas même un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos pères ont abhorré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qu'il adore doivent adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle, parole du Seigneur. Amen. » Cet après-midi, nous voulons aborder un thème. Le thème en question, c'est Jésus le témoin par excellence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus se présente ici comme un modèle sur lesquels nous devrions construire notre démarche de rendre témoignage. Il y a des témoignages qui échouent, qui n'aboutissent pas à des résultats parce qu'on n'a pas utilisé la bonne approche. Et il y en a même qui se fatiguent, qui finissent par se lasser et abandonnent parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Dans ce dialogue avec la Samaritaine, il faut d'emblée que je vous dise qu'il s'agit ici d'une femme de la périphérie. Ce n'est pas une femme d'un statut social élevé. Ce n'est pas une femme considérée dans la société. Une femme qui vit chaque jour d'une certaine stigmatisation. Tout simplement parce qu'elle n'a pas de stabilité, elle change de mari. Et parce qu'il en est ainsi, ce n'est pas possible que pour celle-ci, il y ait un espoir de voir un jour sa vie trouver un sens. Parce qu'elle était à son sixième mari. Jésus choisit cette femme-là, négligée dans la société, stigmatisée, pour en faire son témoin. Il ne faut pas regarder à ta famille, il ne faut pas regarder à ton âge, il ne faut pas regarder à ton niveau d'études, ni à ton sexe, Il faut plutôt considérer que lorsque Dieu s'est choisi, mais choisi pour devenir son témoin, il m'utilisera, il m'équipera, il me rendra capable de pouvoir être un témoin efficace. Mais très souvent, nous ne nous disposons pas, nous ne laissons pas Dieu opérer en nous, parce que nous avons d'autres priorités. J'ai souligné depuis le début que tout croyant, qui que vous soyez, vous avez la lourde responsabilité de rendre témoignage. La démarche qui va nous intéresser dans ce message, c'est la démarche que Jésus entreprend dans la dynamique d'amener cette femme-là au salut. De la conduire au salut, de l'amener à la foi. Et ce que Jésus fait ici est tout à fait intelligent, génial. La manière dont il procède jusqu'à faire de cette femme un témoin qui va emballer toute la Samarie. Et nous allons lire ce passage vers la fin où ses frères, ses sœurs vont faire une déclaration. Alors, si Jésus décide de ne pas prendre un raccourci de la Judée en Galilée, mais il passe à Samarie, il a un objectif, celui de rendre témoignage. Pourquoi à Samarie? Parce que Samarie, nous sommes ici au nord, nous sommes vraiment au nord, alors que la Judée, Jérusalem se retrouve au sud. C'était des frères, mais qui sont devenus des frères ennemis, qui ne se côtoient pas et qui ont chacun son lieu d'adoration. Ses propres dieux d'ailleurs, on pourrait le dire. Jésus choisit d'aller dans ces milieux où vous vous rappellerez d'un passage dans l'évangile selon Luc où Jésus tente de passer par là en Samarie et les gens refusent de laisser passer. Les disciples de Jésus disent, on pourrait demander du ciel que descende le feu pour les consumer tous. Vous connaissez ce passage? Jésus dit, vous n'êtes pas animés de cet esprit de vengeance. Donc il y avait fondamentalement une certaine division entre ces deux peuples. Ils ne se considéraient plus l'un et l'autre. C'est là que Jésus choisit de passer, parce qu'il a un objectif. Nous sommes à 12 heures, au milieu de la journée. Jésus est fatigué du chemin qu'il a parcouru et il s'assoit au bord du puits. Et comme par providence, une femme dite la Samaritaine vient pour puiser. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est autour de cet eau-là, et c'est la première chose que nous devons souligner, Jésus établit un point de contact. Et ça, c'est la pratique, c'est l'approche même de Jésus, établir un point de contact. Vous ne pouvez pas enseigner à un étudiant comme vous enseignerez à un tchikoudiste. Vous ne pouvez pas enseigner à un homme d'affaires comme vous enseignerez, vous témoignerez auprès des ministres. Le gouvernement provincial, vous ne pouvez pas témoigner au gouverneur de province comme si vous témoignerez à un chef de quartier. Ça doit être différent. L'approche. Jésus voit une femme qui vient puiser et c'est l'eau qui va constituer le point de contact. Et ce n'est pas la première fois que Jésus fait ça. Vous vous souviendrez de Jean chapitre 3, le chapitre qui précède. Nicodème s'approche de Jésus sous le registre des miracles que Jésus est en train d'accomplir. Il dit, un homme ne peut pas faire ces miracles s'il n'est pas venu de Dieu. Jésus esquive, il lui dit, il vous faut, quoi? Naître de nouveau. Parce qu'il est en face d'un représentant des chefs religieux juifs qui sont conscients, qui sont en règle avec Dieu. Mais le temps est arrivé pour Jésus qu'il naisse de nouveau. Qu'ils passent des ténèbres, l'obscurcissement spirituel qui les anime tout en croyant qu'ils sont en règle avec Dieu, à la lumière dans laquelle Jésus est venu les transférer. Cet entretien va se terminer par un fiasco, parce qu'on a l'habitude de dire que Jésus n'échoue pas. Jésus n'a pas réussi ce jour-là à convaincre Nicodème, parce que Nicodème est sorti troublé, il n'a pas pu se convertir à ce moment-là, mais la semence était déjà là. On se rendra compte au chapitre 19, des gens qu'effectivement Nicodème se retrouve avec Joseph d'Arimathée pour enterrer Jésus. Alors qu'à ce temps-là, la personne qui était crucifiée
n'avait pas le droit d'être enterré. Il ne devait qu'être resté sur le bois, être rongé, mangé par les oiseaux, aucun enterrement. Mais eux prennent le risque, Nicodème et Joseph d'Arimathée, pour enterrer dignement Jésus. Le risque, c'est quoi? C'est que les gouverneurs pouvaient aussi les mettre à mort, parce qu'ils ont osé toucher à ce qu'on ne doit pas toucher. Mais ils étaient devenus, eux qui étaient les disciples en secret, sont devenus des disciples et ils prennent le risque de témoigner à la mort de Jésus. Nicodème témoigne qu'il est devenu disciple. Donc, il y a eu un processus jusqu'à ce qu'il se fait dévoiler comme un véritable disciple de Jésus. Si nous lisons dans Luc chapitre 5, Jésus, c'est là qu'il fait sa toute première prédication. Et là, ce sont les pêcheurs. Il leur dit de jeter le filet. Ils disent à Jésus, mais nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Jésus leur dit, jetez le filet à nos profondes. Ils ont dit, bon, même si nous avons échoué toute la nuit, sur ta parole, nous allons le faire. Ils ont eu une pêche miraculeuse qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Et Pierre, qui était nu, s'est dit qu'il n'est pas digne. C'est là que se situe la conversion de Pierre. Donc, nous devons établir un point de contact. Et c'est là où très souvent, nous ne savons pas comment y parvenir. Si vous êtes un évangéliste, vous voulez devenir un témoin du Christ, il faut user de la sagesse pour établir un point de contact, pour être efficace. Alors, si nous lisons le verset 9b et le verset 20, « Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut t'adorer. » Jésus fait face ici à un obstacle. Parce qu'il est juif, il ne peut pas être écouté. N'est-ce pas? Il ne peut pas être écouté. Les juifs et les samaritains, Havachangan, ça c'est un obstacle sur le plan socio-culturel. Mais un obstacle religieux, c'est le fait que les juifs disent qu'il faut effectivement adorer à Jérusalem, tandis que les samaritains pensent qu'il faut adorer à Garizim. Comment Jésus va-t-il surmonter ces obstacles? Il va effectivement les surmonter. L'évangélisation, ceux qui ont fait l'histoire de l'Église savent que la première évangélisation a échoué en Afrique parce que l'approche était tout à fait mauvaise. Ceux qui étaient venus ont voulu faire ce qu'on appelle tabula rasa, c'est-à-dire considérer les Africains comme n'ayant aucune connaissance de Dieu. Pourtant, dans nos cultures, il y a des noms, non? Chez les Nandes, c'est Nyamuhanga, n'est-ce pas? Mais chez les Bas, c'est aussi Namahang. Comme pour montrer que la connaissance de l'être suprême était connue dans toutes les cultures, même avant que les missionnaires n'arrivent. Et ils ont cru qu'effectivement, il faut aider ces gens à connaître Dieu. Il fallait partir de ce qu'ils étaient pour bien annoncer l'Évangile. Quand la CBK a commencé à prêcher pour la première fois dans les milieux des Pygmées, ils sont arrivés dans le nord du nord, ils ont commencé à prêcher. Et ils ont parlé de Jésus qui est mort sur la croix. Ils ont dit, Jésus est mort sur la croix, et il faut croire en lui pour que vous puissiez obtenir le pardon de vos péchés. Les Pygmées ont réagi, ils ont dit, « Nye mouli shaoua, ou le yesu koule kwenu butembo, ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont parlé des choses dont les pygmées, auxquelles les pygmées, parce qu'ils ont parlé de quelqu'un qu'on a tué, n'est-ce pas? Et eux se disent, vous l'avez tué à Butembo, et vous venez ici pour dire que nous, on va porter cette responsabilité. Pourtant, ce n'était pas ça. Ils ont été très mal compris. J'avais un ami que j'aimais beaucoup, et j'essayais de pouvoir lui parler, lui présenter l'Évangile. Du fait que j'étais protestant, mais que lui était catholique, il a dit, je n'ai rien à lui dire. D'abord, le fait d'avoir quitté l'Église catholique, tu es déjà maudit, tu vas me dire quoi? J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais j'ai continué à prier pour lui. Un jour, j'ai eu une idée, je me suis dit, Peut-être qu'il faut que je change d'approche. Le matin, il m'a vu, il m'a dit, tu ne vas pas à ton église? J'ai dit, non, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Je vais t'accompagner. Il dit, toi? J'ai dit, oui, je vais t'accompagner. Nous sommes arrivés dans son église catholique, une fois. D'autres dimanches, je suis encore allé. D'autres troisième dimanche, je suis allé. Alors, il semble, et ça il va le dire après, qu'il faisait un effort pour que je sois devant, comme ça il va me surveiller. Comment je vais me comporter? Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si je vais le faire, je ne faisais pas le signe de la croix. Mais j'étais là. Il m'observait aussi pour que lorsque j'ai fini, quand on finit, il veut voir comment, si je vais critiquer. Il se rendait compte que je ne disais rien du début jusqu'à la fin. Alors le quatrième dimanche, il a dit, moi aussi je vais t'accompagner. Alors chaque dimanche, on changeait. Un jour chez les catholiques, un autre jour chez les protestants. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui pose la question, est-ce qu'on peut commencer une étude biblique ici à la maison? Il a dit oui, qui peut refuser la parole de Dieu? Alléluia! Qui peut refuser la parole de Dieu? Nous avons commencé notre étude biblique sur l'Épître aux Romains. On n'est pas arrivé au chapitre 5, il s'était déjà converti. Je raconte cette histoire pour dire que il faut que nous demandions au Seigneur de nous accorder la grâce, d'avoir la sagesse pour savoir amener les gens des ténèbres à la lumière. Jésus a rencontré, je disais donc, des barrières sociales, socioculturelles, des barrières religieuses, mais il les a contournées. Il les a contournées parce que lorsque la femme lui dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, nos ancêtres ont dit qu'il faut adorer à Garizim. Jésus dit quoi? Il dit, l'heure vient, elle est déjà là, où ceux qui vont adorer, adoreront en esprit et en vérité. Bon, c'est vrai, les gens aiment ça dans notre église. Tout à l'heure, j'ai vu les choristes qui étaient en train de dire, nous allons adorer en esprit et en vérité. Souvent, les gens ont l'habitude de croire qu'adorer en esprit et en vérité, c'est sauter, c'est danser. Dieu quoi adorer en esprit et en vérité. De quoi Jésus voulait-il parler? L'adoration en esprit et en vérité dont Jésus parle ici, c'est le fait de découvrir Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'en fait, il était en train de s'adresser à des Juifs qui connaissent Dieu et qui adoraient Dieu, n'est-ce pas? Ils adoraient Dieu au travers de la loi, les prescriptions rituelles, ils adoraient déjà Dieu. Mais lui, quand il vient, parce qu'il est le révélateur par excellence de Dieu transcendant, du Père céleste, il n'y a que ces adorateurs-là pour lesquels Jésus est venu, ceux qui vont trouver Dieu en lui, ceux-là sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont ceux qui ont les yeux spirituels de constater que en Jésus-Christ, Dieu se révèle à nous. Ces gens-là, ce sont ceux-là que le Père cherche. Depuis le temps de Jésus jusqu'aujourd'hui, les adorateurs que le Père cherche, ce sont ceux qui découvrent que Christ est celui en qui Dieu s'est révélé ou s'est fait découvrir, s'est dévoilé à nous. Et non, il n'y a pas d'autre chemin. Même s'il y en a qui pensent que tout chemin mène à Rome, en tout cas au ciel, hein, tous les chemins ne mèneront pas au ciel. Il n'y a que Christ qui est le chemin qui conduit vers le Père. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Jésus a donc contourné ça en montrant à quel niveau c'était. Au moins à ce niveau-là, Juifs et Samaritains vont se retrouver. La question n'est plus de savoir si on adore à Jérusalem. La question n'est plus de savoir si on adore à Garizim, mais les lieux de rencontre ou les points de contact que Dieu a établis désormais, c'est Jésus le Christ. Il n'y a que lui. Donc ceux qui ne le reconnaissent pas ont fait fausse route. Donc Jésus est tout à fait perspicace. Deuxième chose, il est tout à fait perspicace parce qu'il va dire à la femme, lorsqu'il constate que la femme commence à s'ouvrir à son message, nous sommes au verset 16, Jésus dit à la femme, va, cherche ton mari et reviens ici. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, c'est vrai, tu dis vrai, parce que tu en as eu 5 et celui avec qui tu es n'est pas non plus ton mari. La femme, à ce moment-là, découvre et dit une chose, dit, je sais, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Et là commençait un pas dans la connaissance de Jésus. Mais va aller plus loin. Elle va aller plus loin. Parce qu'elle va dire que le Christ, au verset 25, elle va dire, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est le seul passage dans tout le Nouveau Testament où Jésus dit, je suis le Messie. Il n'y a pas d'autre passage que celui-ci. Jésus choisit de révéler à cette femme samaritaine qu'il est le Messie. Et ça va être un déclic qui va conduire la femme à aller maintenant vers les siens pour leur dire, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'avais déjà fait. Ne serait-il pas le Christ? Alors, j'ai lu pour terminer le verset 39 au verset 42. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains les prièrent de demeurer parmi eux. Il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ça, c'est une confession de foi. Elle va emballer toute cette contrée de Sicar qui va dire, « Nous ne croyons pas parce que tu nous as dit, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. » C'est ici que la déclaration qui est faite démontre que Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Le salut est universel. Il y a une certaine dimension de l'universalité du salut. Les Juifs qui croyaient prendre Dieu en otage se retrouvent au niveau où désormais Jésus établit un lien avec la terre païenne et donc même ceux qui ne sont pas juifs sont concernés par la révélation que Jésus est venu apporter. Donc, la femme ici est un agent important donc que choisit Jésus, qu'il utilise pour faire pénétrer. En tout cas, ce jour-là, il y a eu un réveil, la lumière de l'Évangile dans cette contrée, comme pour dire que les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Même si notre Église continue à croire que les femmes ne deviendront jamais pasteurs, il se trompe. Je parie que les femmes seront un jour pasteurs dans cette église. Parce qu'à un moment donné, les gens se rendront compte qu'il n'y a pas de pasteur. La preuve, c'est qu'il y a une génération qui est en train d'aller à retraite. Bientôt, les gens vont constater qu'on aura besoin de ces gens-là qui ont été formés et qui, effectivement, sont des témoins dont l'église a besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.